L'air frais, c'est sur Fréquence Mistral.
On accueille aujourd'hui dans les studios de Fréquence Mistral Alex. Alex, formatrice sur les questions de genre et de sexualité, qui vient faire sa première chronique dans nos studios. Bienvenue et bonjour Alex.
Bonjour, ça va ?
Très bien, et toi ?
Ouais. Oui, alors, juste, tu as dit formatrice sur les questions de genre et sexualité. J'aime bien aussi me présenter sous une autre casquette. Je dis souvent que je suis prof de sexe.
Ok, prof de sexe, on a avec plaisir. Alors,
souvent, je dis ça en première rencontre et ça fait un petit peu bugger. Mais c'est pas vraiment prof de sexe en réalité, c'est pas comme ça que ça s'appelle. En fait, je fais de l'éducation à la sexualité, ça s'appelle. C'est une partie de mon temps de travail, une assez grosse partie, où je rencontre du coup des ados la plupart du temps, enfin des jeunes en tout cas, pour parler de questions de sexualité. Tu vois ce que c'est l'éducation à la sexualité ?
J'en ai fait un tout petit peu au collège. Je pense que j'ai eu 2 ateliers quand j'étais en 5e et en 4e.
Ah ouais, déjà c'est pas mal. Un atelier en 5e, un atelier en 4e.
Oui, avec une formatrice qui était venue nous parler de sexualité, des préservatifs, tout ça, je m'en rappelle bien.
Ok, du planning, non ?
Planning familial, peut-être. Alors, je pense que je me sentais moins concernée, donc peut-être j'écoutais un peu moins bien. Mais...
Ok, oui. Donc 2 séances, ok. Tu sais ce que c'est l'obligation en France ? C'est combien de séances on doit avoir ? Est-ce que tu sais ça ou...
Aucune idée.
T'as aucune idée ?
Non, non.
Je pense que ça va te choquer, comme ça choque tout le monde à chaque fois qu'on en parle. En fait, depuis 2001, donc ça fait quand même un moment, depuis 2001, on est censé avoir au moins 3 séances d'éducation à la sexualité par an, du CP à la terminale.
Du CP à la terminale ?
Ouais.
Ah oui, non, je ne savais pas du tout pour le moment.
Ouais. Et 3 séances au moins par an, c'est-à-dire qu'on est censé voir le planning, avoir des profs qui font des interventions là-dessus. Enfin voilà, on est censé avoir au moins 3 séances par an du CP à la terminale. Depuis 2001. Donc moi, perso, j'étais déjà scolarisée à ce moment-là. Enfin, j'étais censée avoir ça. Je n'ai jamais eu ça, tout ce que j'ai eu.
Oui, c'était... là, j'avoue que c'est surprenant pour le coup.
Carrément.
On est loin des objectifs, là, non ?
Ouais, bah, très, très, très loin. Il y a eu des recherches là-dessus. Il y a moins de 15% en école et au lycée, en collège, et moins de 20% en lycée qui ont eu des interventions 3 fois par an, etc. Donc c'est vraiment... Et encore 15%, c'est que au collège et lycée, là où c'est fait la plupart du temps. Normalement, on est censé en avoir dès le CP. Ce n'est jamais, jamais, jamais fait.
Ok, oui, bah oui.
Juste pour préciser, du coup, c'est la loi 2001 du 4 juillet 2001 qui est relative en fait à l'intervention volontaire de grossesse, mais qui du coup a dit que pour l'ensemble des élèves doivent bénéficier d'une éducation à la sexualité tout au long de la scolarité, à raison de moins 3 séances annuelles. C'est l'article L312-16. Bon, c'est pas très important, mais voilà, c'est sourcé quand même tout
la
ça.
La loi
dire...
est là, mais la on l'applique
là.
Pas, c'est ça.
Exactement, ce n'est jamais appliqué. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que en 2022, le planning familial, SIDA Action et SOMS Homophobie ont créé un comité de pilotage, un COPIL, et ils ont réuni du coup des organisations représentant les grands enjeux de l'éducation à la sexualité. Donc les grands enjeux, c'est les violences, les cyberviolences sexistes et sexuelles, les violences LGBTQIA concernant les personnes LGBTQIA, les droits à la santé sexuelle et reproductive, la prévention des IST et grossesses non désirées, les mutilations sexuelles, etc. Et avec les différents points de vue, donc à la fois des assos, des syndicats, des professionnels de l'éducation nationale, des élèves, etc. Donc ils ont réuni tout ça. Donc ces personnes ont fait des contributions écrites, des auditions, etc. Ils ont fait un espèce de gros récap, quoi, une recherche. Et de là, ils en ont tiré un livre blanc en novembre 2023. Donc un livre blanc, tu sais, c'est un truc qu'on publie pour dire, regardez, il faut ça, il manque ça, voilà.
Okay.
Un espèce de bilan, enfin un truc de conseil, quoi, qui s'appelle « Pour une véritable éducation à la sexualité, les recommandations de la société civile au pouvoir public ». Donc il est consultable, je le trouve super intéressant, il est consultable en ligne, donc il est sorti en novembre 2023.
D'accord.
Et juste avant ça, en fait, vu que c'est pas appliqué du tout la loi, le 2 mars 2023, le planning SIDA Action SOS Homophobie, ils se sont réunis sous la bannière CAD École, ça s'appelle, et ils ont déposé un recours contre l'État devant les tribunaux administratifs de Paris pour non-application de la loi de 2001 relative à l'éducation à la sexualité. Bon, on attend toujours des nouvelles de ce truc. C'était l'année dernière, mais voilà, donc il y a quand même un recours qui est posé, il y a comme une forme de plainte, quoi, pour dire, en gros, l'État manque à ses obligations quant à l'éducation à la sexualité.
D'accord, oui.
Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est mis en place, c'est une obligation, mais que personne ne peut respecter, parce que c'est pas possible, enfin, il n'y a pas les financements pour, il n'y a pas les formes, il n'y a rien.
Oui, c'est voilà. Vraiment, là, on est resté dans le vide, la loi, elle est passée,
ah,
puis derrière...
C'est ça. C'est une loi qui passe, mais derrière, il ne se passe rien, c'est juste, oh, c'est ça l'obligation, mais il n'y a rien qui est mis en place derrière. Un peu compliqué. Pourquoi en fait on se dit que c'est très important ? Moi je tiens beaucoup à ce sujet-là, c'est très important l'éducation à la sexualité. Juste la situation est de plus en plus grave, on le sait, au niveau des violences sexuelles, des discriminations. Ça empire, on a l'impression que ça va de mieux en mieux depuis MeToo, etc., qu'il y a une espèce de vague, ce qui est vrai, aussi une vague féministe ou qui va un peu... qui nous permet de parler plus de consentement, etc. Mais en réalité, c'est pas... les chiffres nous prouvent un petit peu le contraire. Les violences sexuelles ont augmenté de 33% en 2021. En 2022, une femme sur 5 de 18 à 24 ans déclare avoir déjà subi un viol ou une agression sexuelle.
Combien, quel pourcentage ?
Une femme sur 5, ah oui, qui est entre 18 et 24, déclare avoir déjà subi un viol ou une agression sexuelle. Il y a le rapport de la Civis qui est sorti aussi l'année dernière sur les violences sexuelles faites auprès des enfants, qui disent que le bilan, ça a été qu'en gros, il y a 160 000 enfants chaque année en France qui est victime de violences sexuelles.
Ah oui, c'est effrayant.
C'est vraiment effrayant. Il y a 125 000 femmes adultes qui auraient subi une mutilation sexuelle en 2021. Deux tiers des enfants de moins de 15 ans ont déjà eu accès à des images pornographiques et un tiers des enfants de moins de 12 ans. Donc enfin, voilà, oui, il y a beaucoup de choses, je pourrais encore en dire plein. 20% des enfants de 6 à 18 ans disent avoir été confrontés à une situation de cyberharcèlement. 17% des filles et 11% des garçons ont été confrontés à des cyberviolences. Pour dire en gros, les violences sexuelles, elles sont pas forcément en train de régresser comme ce qu'on pourrait penser. Et en fait, l'éducation à la sexualité, ça a un direct impact sur la prévention précoce des violences sexuelles, en fait. Ça a un impact sur plein d'autres choses aussi, sur les discriminations LGBTQIA. Et c'est la même chose, hein, ça augmente, hein, les discriminations à l'encontre des personnes LGBT. Tous ces chiffres-là augmentent. Et on sait qu'à chaque fois, dans les bilans des rapports qui disent ces chiffres augmentent, il faut faire quelque chose contre les violences et les discriminations, à chaque fois, le premier levier qui est cité comme une solution, c'est mettre en place les 3 séances par an d'éducation à la sexualité.
Ça paraît logique.
Ça paraît logique, et c'est jamais fait. C'est de la prévention, c'est-à-dire agir, faire réfléchir avant que les choses arrivent, quoi.
Ouais, c'est du bon sens, ouais.
Voilà. Mais il y a trop de choses qui sont compliquées pour mettre en place l'éducation à la sexualité, en fait. Il y a pas assez de formation pour les professionnels, pour les profs qui pourraient, en fait, se former pour... Enfin, il y en a des profs qui se forment, mais déjà, les formations... Alors ça, c'est mon avis, j'en ai vu quelques-unes, elles sont pas géniales, elles sont trop courtes, elles ne donnent pas assez d'informations, et en plus, elles sont pas accessibles facilement pour les profs. Donc déjà, c'est compliqué au niveau des formations pour eux. Après, c'est bien si des profs se forment, mais c'est bien aussi qu'il y ait toujours la possibilité d'avoir des intervenants extérieurs comme des assos, etc. Parce que c'est pas la même chose de parler de sexualité avec ton prof,
oui, bien sûr,
qu'avec un intervenant extérieur.
Qui est un peu moins, on va dire...
Bah oui.
Oui, mon proche, c'est ça. Guillemets.
Et en fait, il n'y a pas assez d'argent pour les intervenants extérieurs, en fait, pour les assos. Il y a des subventions qui sont données pour ça, pour la santé, etc. Ou du coup, il y a des subventions qui sont données pour les assos pour faire ça, mais en fait, c'est pas du tout suffisant par rapport au nombre d'établissements, au nombre d'élèves à avoir. Pas du tout, du tout. Et en plus, ça dépend des structures. C'est toujours à l'initiative des structures quand ils font appel à un intervenant extérieur, alors que ça devrait être une obligation. Enfin, ça l'est, mais il n'y a pas de contrôle. Donc, comment veux-tu que ça se passe? Et les gens ne savent pas, en fait, que c'est censé être quelque chose qui est obligatoire. La plupart des personnes, les personnels de l'éducation...
Je l'ai appris il y a 10 minutes, voilà, exactement.
Mais même dans l'éducation nationale, où ils sont censés le faire...
Ils ne sont pas au courant.
Ils ne sont pas tous au courant du tout.
Ça paraît, oui. Bah, c'est tellement nouveau. Enfin, ça date de 23 ans, mais c'est vrai que c'est nouveau de l'apprendre. Je ne savais pas que c'était obligatoire, personnellement. Oui. Je pensais que c'était à l'initiative des établissements en fonction de ce qu'ils voulaient.
Ouais. Bah, du coup, ça, c'est ça. C'est effectivement à l'initiative des établissements, mais ce n'est pas censé l'être, quoi.
Oui.
Et en plus, le problème aujourd'hui qu'on voit énormément, c'est qu'il y a tout un tas de rumeurs sur l'éducation à la sexualité. Alors, je le dis là maintenant, c'est important. Nous n'apprenons pas aux enfants à se masturber. Ça n'existe pas. Je ne sais pas qui fait ça. S'il y a des gens qui font ça, ça va pas. Enfin, c'est pas du tout OK. Il y a personne qui fait ça, en tout cas dans les assos qui font de l'éducation à la sexualité. J'ai jamais entendu une chose pareille, vraiment.
Non, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de hoax et qui sont sortis sur les réseaux sociaux du fait de l'extrême droite. Et je me rappelle juste avant du mariage... la manif de la famille pour tous. Enfin, la manif pour tous contre le mariage homosexuel qui a beaucoup propagé ce genre de type de rumeur pendant un moment, quoi.
C'est ça, et c'est ça. Mais c'est vraiment, c'est faux, quoi. C'est faux.
Ah oui.
ça n'existe pas, je ne sais pas. Alors, apparemment, il y aurait une fois, il y a une vidéo qui a été prise d'une infirmière qui aurait parlé de pénis à des enfants. quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'elle n'était pas formée pour le faire, du coup. Si elle a parlé de choses qui n'étaient pas adaptées, c'est qu'elle n'était pas bien formée. En fait, en plus de ça, c'est adapté à tout âge, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de rapports sexuels avec des enfants. C'est pas... Quand on dit sexualité, moi qui travaille dans la sexualité, en fait, c'est pas... on ne parle pas de rapports sexuels, c'est qu'on a tendance à penser à ça en parlant de sexualité. Mais quand on parle de sexualité avec des enfants, en fait, on parle juste de, par exemple, l'intimité, le rapport au consentement, le fait de pouvoir dire non à un adulte s'il veut nous faire un bisou. Donc c'est le consentement de son corps, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je veux pas. L'intimité dans le sens, est-ce que j'ai le droit d'être tout nu dans la cour de récréation? Non, typiquement. Enfin voilà, c'est des choses où en fait on parle pas de rapport sexuel, on parle pas de masturbation.
Oui, bien sûr, on parle du rapport au corps, à l'intimité, oui, bien sûr.
Et on parle aussi, en fait, c'est tout, l'éducation à la sexualité, c'est aussi tout ce qui est l'éducation aux compétences psychosociales. Les compétences psychosociales, c'est dur à résumer, mais en gros, c'est toutes les compétences liées à l'empathie, à soit s'affirmer, soit poser des limites, connaître ses émotions, connaître ses ressentis, ses sensations, savoir les exprimer, savoir communiquer avec les autres. C'est plein de choses, les compétences psychosociales. C'est psychosocial, donc, tu vois, en interaction avec soi, avec les autres, quoi, en gros. Et en éducation à la sexualité, en fait, on travaille énormément ça. L'empathie, le respect, la communication, ses émotions à soi. Quand on parle d'amour, par exemple, on parle de ses émotions, comment on sait ce qu'on ressent, l'attirance, comment on sait comment on respecte l'autre dans la relation, voilà. C'est tout ça, en fait, c'est les compétences psychosociales. Donc, à travers toutes les séances d'éducation à la sexualité, que ça soit du CP à la terminale, on va aussi aborder toutes ces questions-là psychosociales, enfin compétences psychosociales.
Okay.
Du coup, c'est adapté à chaque fois aux âges. On va plus parler à des lycéens de contraception et d'IST et de rapports sexuels dans le sens consentement dans le rapport sexuel, des trucs comme ça. On va plus parler aux enfants de rapport au corps, à l'intimité et au consentement dans le sens rapport au corps, quoi.
Ouais, bien sûr.
On n'est pas complètement zinzin, finalement.
Oui, oui, mais j'avais pas de doute là-dessus.
Non,
moi,
non,
je me rappelle personnellement sur les, au collège, je sais qu'à l'époque, c'était, on va dire, un peu en avant sur le temps, mais elle nous avait beaucoup parlé de consentement et de viol, notamment. Je me rappelle en quatrième, elle nous avait parlé de viol, du fait qu'une viol, c'est à partir du moment où il y a pénétration. Elle avait été très claire sur certains sujets et je me rappelle même un petit peu sèche d'une certaine manière, parce qu'il y avait quelques rires sur certains moments, mais parce que des adolescents à qui on parle de sexualité, de pénétration, forcément ça ricane. Et je me rappelle qu'elle avait été très très claire, mais aussi c'était instructif, parce que moi personnellement à cette époque-là je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'un viol, hein, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait même pas ce que c'est à l'âge adulte, donc si on n'apprend pas...
Bien sûr.
Ouais, c'est compliqué.
Ben, bien sûr, et nous on fait aussi des interventions avec des adultes de temps en temps, puis des formations pour adultes, et c'est vrai que on voit tout le temps... Des choses, nous on pense que c'est un peu évident, en fait il y a beaucoup beaucoup de lacunes, hein, chez tout le monde, au niveau que ça soit des questions de consentement, mais même purement anatomique. Il y a plein de choses qu'on sait pas, et c'est normal parce que c'est un sujet tabou, du coup on en parle très peu. Donc c'est compliqué d'avoir des informations fiables.
Et on pourrait croire que le porno il a ouvert une grande porte, mais en fin de compte au final il a ouvert une porte, mais c'est une porte où tout est faux derrière, donc c'est compliqué de venir apprendre la grande chose là-dessus, quoi.
Ouais, c'est ce que je dis souvent, je dis en gros après je dis pas que la pornographie c'est le diable, mais il faut faire attention, en gros faut prendre du recul sur la pornographie, et ce que je dis aux jeunes c'est, en fait, si tu te dis que c'est la vérité, c'est le faux, ça n'existe pas. C'est comme si tu te dis je vais regarder Harry Potter et après je vais monter sur un balai, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et du coup, pour moi, c'est plus désapprendre ce qu'ils ont faussement appris que réellement leur apprendre des choses. En réalité, en fait, à chaque fois en éducation à la sexualité, le principe, c'est de s'adapter à eux, partir d'eux, de leurs questions, de ce qui vient d'eux. Et de toute façon, on n'a généralement que 2 heures sur toute la scolarité. Donc, en fait, on essaie juste d'avoir le maximum de temps pour leur expliquer le maximum de choses, ou pour les faire réagir sur le maximum de choses. Donc, on s'adapte à eux parce qu'on n'a pas le temps, quoi.
Oui, bien sûr.
Mais parce que c'est comme ça, on aimerait bien avoir beaucoup plus de temps, ça serait beaucoup mieux. En tout cas, c'est hyper important parce qu'on doit parler des différentes dimensions de la sexualité, biologique, affective, culturelle, éthique, sociale, juridique, numérique, psychologique, plein de choses. On doit aussi, dans ces séances-là, on favorise les comportements responsables individuels et collectifs. On leur permet aussi d'avoir les ressources pour savoir qui sont les personnes ressources d'aide ou de soutien à l'extérieur de l'établissement. Quand c'est en collège, en lycée, on leur dit tu peux aller faire ça là-bas, tu peux aller poser telle question ou te faire dépister là-bas, enfin, c'est hyper important. On permet aussi de développer les compétences psychosociales et ça promeut aussi les droits à la santé sexuelle et reproductive, pour lutter contre les violences, les cyberviolences sexistes et sexuelles, mais aussi les IST et tout ça, enfin plein de choses quoi, en fait, différentes. Ça nous permet de parler de toutes les questions de discrimination, violence, enfin, c'est très large en fait.
Comme c'est thématique. Un sujet vaste, ouais.
C'est très, 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 très vaste et on a généralement très peu de temps. Et après, c'est toutes les discriminations dont on parle aussi. Et surtout, on parle aussi d'esprit critique. C'est-à-dire qu'on les fait beaucoup échanger entre eux, c'est une des bases de l'éducation à la sexualité, l'éducation populaire, on les fait échanger entre eux pour se questionner, questionner leur représentation et se questionner sur est-ce que ce que je vois, enfin voilà, questionner l'esprit, enfin se remettre en question quoi, avoir un recul sur sa pensée et sur ses évidences quoi.
Mais ses comportements ou typiquement une jeune fille qui va boire un verre avec un garçon, ça veut pas dire qu'il t'a offert un verre que tu dois, lui dois quoi que ce soit, ou parce que c'est vrai que c'est des comportements des fois qui sont ancrés. Hein.
Oui, bien sûr. Et c'est se questionner sur toutes ces représentations sexistes là et en fait les faire discuter entre eux. Parce que moi, je viens en tant qu'adulte, je leur dis, c'est pas bien d'être homophobe, ils s'en foutent complètement si un adulte vient leur dire ça. Du coup, c'est pourquoi tu penses ça, d'où ça vient, qu'est-ce qui te fait penser ça. Enfin voilà, en fait, c'est tout le temps re-questionner pour essayer de les faire se questionner eux, quoi.
Ouais, très bien.
Enfin bon, pour moi, c'est très important. Je voulais là faire un mini quiz, si ça te dit.
Avec plaisir.
En éducation à la sexualité.
Allez, c'est parti.
C'est aussi pour dire peut-être que en fait, tout le monde devrait faire de l'éducation à la sexualité à tout âge, même en tant qu'adulte. Tu es un adulte.
Je crois l'être, mais effectivement, je pense que j'ai forcément des lacunes sur certains sujets.
Je sais pas, on va voir. C'est des vrais faux.
D'accord.
J'en ai quelques-uns. Alors, vrai ou faux, prendre plus de 3 pilules du lendemain est mauvais pour la santé et peut même rendre stérile.
Alors, je crois que c'est un hoax, parce que moi, j'ai entendu ça très souvent quand j'étais jeune. On me disait, ouais, plus de 3, et après, ça te détruit complètement. Hormonalement, c'est la catastrophe. Mais je crois que c'est faux, parce que j'avais cru lire quelque part que c'était faux.
Ouais, c'est ça, c'est faux. Il peut y avoir des effets indésirables, genre des maux de ventre, des règles qui sont décalées, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est pas du tout mauvais pour la santé. D'ailleurs, c'est en vente libre et gratuit. Et le seul risque, c'est qu'en fait, ça ne fonctionne pas si on ne la prend pas bien ou que je ne sais pas. Mmh. Et du coup, là, c'est risqué si on pense ne pas avoir évité la grossesse alors qu'en fait, on est enceinte. Mais sinon, il n'y a pas de risque à part ça, quoi.
Mais ça doit rester quand même exceptionnel, non ? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on prend comme à chaque rapport sexuel le lendemain pour...
Voilà, ce n'est pas un moyen de contraception.
Voilà, c'est ça.
En fait, si tu veux, c'est un truc... On peut le prendre autant de fois qu'on veut en urgence... Mais c'est pas un moyen de contraception dans le sens où c'est quand même ça va quand même perturber tes hormones, enfin ça décale ton rythme, ton
cycle. Oui, donc ça doit pas devenir le quotidien toutes les semaines.
Ça doit pas devenir le quotidien. Ouais. Voilà. Après il y a des gens pour qui c'est le quotidien parce qu'ils arrivent pas à prendre une contraception, enfin ils arrivent pas. Oui, c'est compliqué pour ces personnes de prendre une contraception, etc. Donc ça peut. C'est juste que c'est pas la meilleure solution, je pense. Moi, c'est un jugement, mais je pense que c'est pas la meilleure solution parce que ça, c'est pour ton cycle, c'est pas non plus très bon, quoi.
Oui, c'est pas anecdotique.
Voilà, mais après c'est pas mauvais pour la santé, mais c'est juste que ça te décale ton cycle. Donc c'est juste que c'est préférable d'avoir une contraception que tu prends en prévention, etc. Quoi.
Ça me paraît logique.
Voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que souvent on est mal informé sur tous les moyens de contraception, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui en fait prennent tout le temps la contraception d'urgence, parce qu'elles savent pas qu'en fait il y a des moyens de contraception qui sont ok. D'ailleurs, il y en a de plus en plus pour les hommes.
J'ai fait mes recherches là-dessus à une époque.
Ok.
Je connais un petit peu.
Tu connais le slip chauffant ?
Je connais le slip chauffant. Je connais bien. On en a beaucoup parlé, mais j'avoue que j'ai encore des réticences parce que moi, c'est le porter 15 heures par jour. Déjà, j'ai du mal à porter un slip tout court 15 heures par jour. Un slip
chauffant. Ouais. C'est pas moins de 15 heures, bon, peut-être.
Dans mes souvenirs, c'est 15 heures, mais après, que je me trompe. Mais oui,
non, mais peut-être qu'il y a des différentes formes aussi. Je sais pas.
Après, c'était à l'époque, hein, c'était il y a 2-3 ans, peut-être ça a évolué. Donc, je veux pas non plus. J'ai pas de certitude là-dessus.
Ouais, ok. Autre vrai faux. Toutes les filles ont un hymen qu'il faut percer au premier rapport.
Faux, 100% faux, parce que par exemple, à l'équitation, on peut perdre son pucelage.
Bravo. Alors, la question de l'hymen, c'est une question qui revient très, très, très souvent, puisqu'il y a cet imaginaire de « il faut percer l'hymen au premier rapport », etc., etc. Mais en fait, déjà, c'est qu'il y a plein de formes d'hymen différents. Il y en a qui sont très fins. C'est pas qu'il y en a... Il y en a qui en ont presque pas, on va dire, en gros, mais parce qu'il est tellement fin. Il est tellement petit et souple qu'en fait, ça ne change rien. Il y en a qui vont, ça va être percé avant, comme tu dis, dans une autre activité, ou il y en a même la première fois, ça va pas être percé et ça va être au moment de l'accouchement. Enfin, il y a plein de façons, enfin, il y a plein d'hymens différents.
Ça peut ne pas être percé jusqu'à l'accouchement ?
Ben, parce qu'en fait, si ton hymen est très fin et souple, il peut ne pas se déchirer avec des rapports. Parce qu'il y a tellement d'hymens différents.
Alors, je suis désolé parce que là, ça me questionne, mais du coup, l'hymen, est-ce que les spermatozoïdes, ils peuvent accéder à l'utérus même avec un hymen ?
L'hymen, il est à l'entrée de l'orifice vaginal, en fait.
Ok, coup, alors là, j'ai pas trop un regard là-dessus. C'est vrai que. Ouais, d'accord,
okay. Je t'apporte des schémas la prochaine fois.
Oh, merci, ouais, je les mettrai en illustration sur le podcast.
Parce que, oui, en gros, tu vois, c'est à l'entrée. Et en fait, il y a tellement de formes d'hymen différents aujourd'hui qu'on sait qu'en gros, c'est difficile de mettre une règle sur l'hymen. Parce qu'il y a des filles qui ont un hymen très fin, enfin, des filles d'ailleurs, des personnes qui ont une vulve qui ont un hymen très fin, d'autres qui est souple, il y en a d'autres où c'est plus dur et du coup il faut qu'il y ait, quand il y a un pénis qui passe, ben, ça va un petit peu se percer. D'autres ça va être qu'au moment de l'accouchement parce qu'il est tellement fin et souple que du coup c'est que quand il y a vraiment un truc plus gros qui sort, on va dire. Du coup, voilà, okay. tu vois.
Ah, genre, je savais pas du tout. Là, j'apprends quelque chose.
Il y a plein de formes, en fait. C'est ouais.
Il y a autant d'hymen que de
exactement,
personnes. Ouais.
Exactement. Ouais. Et il y a même des fois des personnes qui ont un hymen complètement bouché. Et là, c'est problématique. Il faut aller se faire opérer, du coup. Okay. Parce que pour les règles et tout, c'est compliqué. Faut vraiment. Ça, c'est plutôt rare, mais ça oui. existe aussi. Donc, pour dire, en gros, il n'y a pas de règles sur l'hymen. Il y a tellement d'hymen différents que c'est. Enfin, okay. Voilà.
Bah, alors, j'apprends quelque chose, je ne savais pas.
Autre question. Il faut se faire dépister 2 semaines après un rapport à risque. Vrai ou faux?
Moi, j'avais 3 mois en tête, personnellement. Mais je ne sais pas si c'est...
D'où ça vient, les 3 mois?
Je crois que c'était pour le sida. Je crois qu'il y a une phase... faut 3 mois pour être sûr que... Je crois qu'on peut le faire directement après, mais il faut attendre 3 mois pour être certain de refaire un test.
Alors, 3 mois, ça devait être pour le test rapide. Parce qu'en gros, les tests rapides, c'est que ça s'appelle le TROD. C'est quand tu prends une petite goutte de sang et que tu vas mettre... C'est les assos qui font ça.
Ok, d'accord.
Tu vas mettre comme un test Covid, mais pour le VIH avec une petite goutte de sang. Okay. Comme ça, tu peux savoir directement si tu es contaminé au VIH ou pas. Et c'est 3 mois après le rapport à risque. Ça, okay. ça, c'est ça. Par contre, tu peux le faire plus tôt, 4 à 6 semaines après le rapport à risque, quand tu le fais en prise de sang. C'est-à-dire soit au labo, soit au Cégide.
Donc 4, un mois et demi, donc.
Ouais,
coup.
C'est ça.
Okay.
Après un rapport à risque.
Okay.
Si tu le fais tout de suite après, tu vas pas le voir, en fait.
Oui, oui, je sais que l'infection, ouais. En tout cas sur le sida, je sais que ça prend un peu plus de temps c'est pour ça. Être détectable.
Et même pour la plupart des IST, en fait, tu vois pas tout de suite.
Ok.
Il faut regarder, il y a un tableau qui est accessible en ligne de tableau des IST niveau temps de dépistage, quoi.
Okay.
Où en gros, tu, en fonction, tu dois prendre plus ou moins de temps, mais en gros, ça se compte plutôt en semaines, plusieurs semaines, plutôt qu'en jours, quoi. C'est pas tout de suite que tu fais un dépistage, faut attendre un petit peu.
Et c'est un peu dommage, non? Parce que typiquement, pour le sida, je sais qu'il y a des traitements ouais. antiviraux qu'on peut prendre directement après oui. si on a une exposition et qui empêche ou en tout cas limite le risque de contamination.
Ouais, ouais, tu fais
mais
bien
du coup, on peut pas le savoir directement. Donc non. Des fois, on prend le traitement sans savoir si on a été réellement exposé ou pas au virus.
Exactement. En fait, tu prends le TPE, ça s'appelle le traitement post-exposition, tu le prends jusqu'à 48 heures en fait après le...
C'est ce que j'avais en tête,
ouais. À risque, ouais. Et tu dois le prendre sur un mois. C'est hyper vénère comme traitement, enfin, dans le sens où c'est intense, quoi. Ça donne, la plupart des gens, ça leur donne des effets secondaires, c'est lourd, ça fait des maux de ventre, ça fait, voilà, c'est
assez intense, violent, ouais.
C'est assez dur, mais en fait ça élimine quasi toutes les chances d'avoir attrapé le VIH s'il y a eu rapport à risque, alors que si tu considères qu'il y a eu rapport à risque, c'est-à-dire que si les médecins considèrent qu'il y a eu rapport à risque, c'est-à-dire que tu ne peux pas vérifier s'il y avait risque ou pas, en fait.
Oui. Ou typiquement, moi, j'avais là en tête les gamins qui jouent avec une seringue et qui jouent voilà. à se piquer avec les seringues de qui traînent à la rue. Là,
voilà, effectivement, c'est très, très risqué, effectivement.
Oui. Non, mais j'avais vu cette histoire ouais. passer. Effectivement, ouais. les gamins avaient pris un traitement juste après pour éviter la contamination. C'est pour ça que j'avais ça en tête.
Ouais. Ouais. Mais dans d'autres situations, le médecin, il peut dire, bah là, il n'y a pas... c'est à vous de voir, mais il n'y a peut-être pas assez de risque pour que vous preniez le
oui,
TPE.
Oui. Sachant voilà, que c'est... même si on a un rapport sexuel avec une personne contaminée sans mon préservatif, on n'est pas contaminé à 100%
c'est
le premier coup.
Ça. Ouais. Carrément. Ouais. Bon, t'es au courant quand même.
Ah, j'ai révisé mes gammes avant qu'ils viennent en secret.
Vrai ou faux, maintenant, une femme peut tomber enceinte pendant ses règles.
Une femme pendant... Faux. Pas faux.
C'est vrai, mais très rare. Mais c'est vrai.
C'est pas possible. C'est
alors,
vrai.
Je t'explique, mais c'est très rare. Hein. Faut quand même pas... Faut se dire, c'est pas non plus tous les jours.
Ah oui, ok.
Mais en gros, on pense toujours à... une femme, elle se peut tomber enceinte que pendant l'ovulation. Enfin, une femme, une personne qui a un utérus et une vulve et tout ça.
Mmh.
Elle peut tomber enceinte que pendant l'ovulation. Mais en fait, l'ovulation, des fois... En général, c'est au 14e jour du cycle. En sachant que le premier jour, c'est le premier jour des règles.
Ok.
En général, c'est le 14e jour qu'on ovule. Mais c'est en moyenne.
Mmh.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont un cycle de 35 jours, d'autres de 14... Enfin, non, pas de 14, mais de 22. Voilà, c'est... ça dépend des personnes, du cycle, et ensuite l'ovulation elle peut arriver au jour 17 comme au jour 10, et parfois elle arrive juste après les règles ovulation. C'est rare, mais ça peut arriver pour certaines personnes.
Okay.
Et en fait, vu que on peut tomber enceinte sur une période de 6 jours avant l'ovulation,
okay.
En gros, ça veut dire que si t'ovules juste après tes règles et que t'as un rapport à la fin des règles, mm-hmm. par exemple, et ben si y a un spermatozoïde qui reste dans ton corps, parce que pourquoi on peut tomber enceinte 6 jours avant l'ovulation, parce que les spermatozoïdes peuvent rester vivants dans le corps pendant 6 jours à peu près.
Ah oui, 6 jours ?
Ouais, c'est long. Hein.
Ah oui, je pensais pas, je pensais comme c'était acide, justement, ils pouvaient pas résister très longtemps, j'avais en tête de 24 heures, donc ils tiennent 6 jours.
Ça peut, ils peuvent tenir 6 jours.
Ils sont solides. Hein.
Ouais, et du coup, si à ce moment-là, il y a eu un rapport non protégé, et que 6 jours, c'est la fin des règles, par exemple, et que la personne ovule 5 jours après, 6 jours après, ben, peut y avoir fécondation.
Ok.
Tu vois. Donc c'est pour ça que y a des personnes qui se disent c'est bon, c'est pendant les règles, on met pas de préservatif et tout. Non, on est censé aussi, c'est risqué aussi d'avoir des rapports.
Ok, bah, je l'apprends.
C'est rare.
Alors, oui, c'est rare, mais pour le coup, je savais pas du tout.
Voilà, il y a plein de petites choses comme ça que c'est bien aussi de savoir parce que.
Ah oui, c'est très bien de le savoir. Ah oui, je m'étais renseigné en fait à l'époque sur la contraception naturelle, entre guillemets.
Ouais.
Après, je connaissais trois filles qui avaient la même année décidé de permuter et d'enlever toute contraception, entre guillemets, chimique, avec la pilule, etc., pour passer sur la contraception naturelle. Quatre filles, pardon, et sur les quatre, il y en a trois qui sont tombées enceintes dans l'année. Donc c'est là où je me suis dit, contraception naturelle, c'est peut-être pas la solution.
Effectivement. Mais parce qu'aussi, en fait, on part du principe qu'on a un cycle toujours très régulier, alors que déjà il peut se modifier.
Oui, en fonction de la vie et de quotidienne. Ouais.
Voilà, et du coup, c'est pas toujours. Enfin, ça dépend des personnes, mais l'ovulation n'est pas toujours au même moment. Il faut toujours checker ça. Faut pas que compter, quoi. Il faut aussi checker sa température, il faut faire
c'est
plein
ça,
de choses pour
le
vérifier.
Le matin, on
voilà.
réveille et tout ça, elle m'avait expliqué, mais même en faisant tout ça,
même
je crois que.
Bah
dangereux, quoi.
Bah oui, c'est ça, c'est pas fiable en 100%. Il y a des personnes pour qui ça marche bien toute la vie. Mais c'est pas fiable à 100%.
Et oui, et en plus, bah moi, typiquement, ces personnes-là avec qui j'ai discuté, elles m'avaient dit oui, pendant les règles, et un jour avant les règles et un jour après, il y a 0% de chance de tomber enceinte avec un rapport sexuel à ce moment-là.
Après, là, elle parle de avant les règles et juste au début des règles, c'est vrai qu'il y a quasi très peu de chance. Là, je te disais plutôt vers la fin des règles.
Oui, ok.
Mais quand même, enfin, on peut pas partir du principe que
c'est
impossible.
Ouais, écoute, j'apprends quelque chose.
Dernière petite question de quiz.
Mm-hmm.
Vrai ou faux, quand on a une IST, une infection sexuellement transmissible, on a forcément des signes pour s'en rendre compte au bout d'un moment.
Typiquement les chlamydia, non, faux, parce qu'on peut avoir des chlamydia pour un mec et pas en être conscient du tout et le transmettre à plein de personnes.
Ouais, et pour une meuf aussi, en tout cas pour une personne qui a un pénis ou une personne qui a une vulve, on peut ne pas avoir de symptômes.
Ok, bah je ne savais pas. Je le savais. Mais pas pour tous les... Bah, je sais même le sida, on peut être porteur du sida sans s'en rendre compte pendant des années. Hein.
Carrément. Le VIH, en fait, quand tu l'as... Parce qu'avant que ça soit le sida, c'est la maladie. Avant que ça soit la maladie, c'est le VIH, donc c'est le virus qui est dans ton corps, et t'as pas de symptômes, en fait, pendant des années. Ils peuvent se développer dans ton corps pendant des années. T'as rien qui montre que t'as le VIH. Mm-hmm. C'est que quand tu passes au stade sida que tu commences à avoir des symptômes.
Oui, Kaposi, etc., là, qui
voilà,
apparaissent d'un
c'est
coup.
Ça. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on incite vraiment à se faire dépister. Et dans 30% des cas, t'as pas de symptômes. Même en tout cas, au début, généralement, t'as pas de symptômes, et ça peut arriver qu'au bout d'un moment, t'en aies, et dans 30% des cas, t'en as pas du tout.
Ouais.
Donc vraiment, en fait, il faut se faire dépister.
Allez vous faire dépister.
Pour se faire dépister, d'ailleurs, j'ai dit, il y a les centres de dépistage qu'on appelle les CEGID.
Mm-hmm.
C'est les centres dans certains hôpitaux. Je crois qu'il y en a un à Castellane, là, à côté.
Oui.
En gros, soit ça s'appelle CEGID, CEGIDD, soit centre de dépistage.
D'accord.
Et on y va. Normalement, ce qui se passe, c'est anonyme, gratuit et accessible aux mineurs. C'est-à-dire qu'on y va, ils prennent juste notre heure d'arrivée, notre date de naissance. Ils nous posent des questions sur nos prises de risque, etc. Ils nous font des tests. Et ensuite, on revient une semaine après pour les résultats, mmh. avec un médecin qui nous dit, bon, ben, y a ça ou il n'y a pas ça, etc. Donc ça, c'est gratuit, anonyme. Enfin, vraiment, tout est fait pour que les gens se sentent en sécurité, accompagnés et tout ça. C'est hyper important de le savoir et de se dire, il faut que je le fasse assez régulièrement dans ma vie.
Oui.
Même si normalement, voilà, quand même, il faut quand même aller se faire dépister de temps en temps pour être sûr que tout va bien. Même si on est dans une relation exclusive, par exemple, c'est toujours bien de le faire parce que on ne sait jamais. Et voilà. Et du coup, moi, je dis, voilà, faut, si on a des rapports ou pas à risque, etc., faut le faire au moins une fois par an, quoi, ou une fois tous les deux ans.
Ok.
Je pense. Et moi, pour des personnes qui ont des rapports plus réguliers, tous les 6 mois, quoi.
Oui, moi, je sais que dès que je rentre dans une relation exclusive, normalement, je le fais en début de relation pour être certain. Et après, c'est vrai que j'ai tendance à me dire que, à faire confiance à l'autre. Mais ne faites pas toujours confiance aux gens.
Mais bon. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que je pense que c'est hyper important de promouvoir l'éducation à la sexualité et faire surtout très attention aux rumeurs et aux fake news. Les choses que vous entendez sur l'éducation à la sexualité, de type on apprend aux enfants à se masturber, on apprend aux enfants à être trans ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Quand on parle d'orientation sexuelle et d'identité de genre, c'est pour permettre aux personnes de vivre librement leur vie, et c'est pas pour inciter les gens à devenir quelque chose.
Moi, j'ai entendu dire qu'après un cours d'éducation sexuelle, les enfants partent en mairie pour changer de sexe dans la semaine qui suit. Ouais. Donc... Mais c'est bien que tu crées la clarté là-dessus.
Bah oui, mais en même temps, c'est parce que nous, c'est ça qui est énervant, c'est que nous, on lutte contre les LGBT-phobies dans le sens où on veut que les personnes... Parce qu'on sait qu'en fait, les personnes LGBT sont des personnes qui sont les plus à risque au suicide à l'adolescence.
Oui, bien sûr. Oui.
C'est la majorité des personnes, des jeunes à la rue, c'est des personnes LGBT. Enfin, il y a une population qui est très discriminée, qui est victime d'énormément de violences. Et donc, nous, ce qu'on veut juste dire, c'est que c'est OK et qu'il faut être OK avec soi. Et voilà, on accompagne là-dedans et on n'est pas en train d'inciter. C'est ça, vraiment, faut...
Non, mais en plus, même si on accuse d'inciter, on ne peut pas inciter quelqu'un à...
Exactement. C'est pas possible. Ça, c'est les thérapies de conversion et ce n'est pas notre côté. C'est plutôt les gens d'extrême droite qui font ça.
Oui, la société dans son entièreté qui pousse plutôt à inciter à rester dans la norme. Mais,
exactement.
Mais c'est vrai que j'ai du mal à croire que quelqu'un choisisse d'être homosexuel parce qu'il a eu un cours de 2 heures d'éducation.
C'est ça.
Mais bon.
C'est ça, c'est exactement ça.
Bien de préciser, on n'incite pas les gens.
Et c'est l'inverse. Tu as raison de le dire, c'est l'inverse. C'est plutôt les personnes qui essaye d'inciter avec les thérapies de conversion, mais ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, et c'est juste de la souffrance. En tout cas, du coup, faites attention aux rumeurs et aux fake news, faut vérifier vos sources, surtout, c'est hyper important. Mm-hmm. Faire attention aussi aux biais cognitifs, mais ça, c'est pour tout le monde.
Oui.
Les biais de confirmation, etc. Checker ses sources, faire attention aux rumeurs, et c'est, pour moi, c'est aussi à cause de ça que l'extrême droite prend du pouvoir de plus en plus. C'est les fake news, c'est les rumeurs, ça touche l'éducation à la sexualité comme énormément de choses. Et notamment l'éducation à la sécurité. Donc là, j'ai eu très peur dimanche pour mon métier, mais ça va à peu près.
Ouais, presque sauvé.
Presque sauvé.
Encore 3 ans.
C'est ça. Voilà.
Merci à toi, Alex, d'avoir consacré ton temps et d'être venu nous éclairer sur ces sujets. On a hâte de te revoir et te recevoir dans les studios. Et bon été à toi.
Merci.